La nomophobie, est-ce que ça vous parle? C'est un danger qui guette les adolescents, les jeunes adultes également. C'est directement lié au téléphone portable. Si vous voulez en savoir plus, eh bien retrouvez-moi, c'est tout de suite.
Bonjour et bienvenue sur ce podcast qui va transformer votre vie. Je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach certifiée RNCP, auteure de plusieurs livres best-sellers, conférencière, formatrice en développement personnel et en parentalité, référente pour les médias, entrepreneuse, épouse et maman de 3 enfants. Dans ce podcast, je partage avec vous chaque semaine des outils, des conseils et des clés concrètes pour vous aider à vous libérer de vos blocages, à améliorer vos relations, à mieux gérer vos émotions, à remettre du sens dans votre vie, à retrouver énergie et positivité et bien d'autres choses encore afin d'obtenir la vie qui vous fait rêver.
Et on va parler de la nomophobie. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler. C'est quelque chose dont on va entendre parler de plus en plus. C'est le fait d'être accro à son téléphone, mais d'une façon très très importante. Je vais tout détailler dans cette vidéo. Je suis tombée sur une étude réalisée par des chercheurs australiens, des chercheurs de l'université de Monash à Melbourne en Australie, qui ont révélé que cette nomophobie touchait principalement les jeunes entre 18 et 25 ans. On va voir dans cette vidéo tout ce que veut dire la nomophobie, qui elle touche, comment savoir si votre enfant ou vous-même vous êtes sujet à de la nomophobie, parce qu'il faut savoir qu'elle entraîne des comportements dangereux, que ce soit de point de vue psychique ou physique, et que c'est comme toutes les maladies ou toutes les déviances, j'ai envie de dire, le mal du siècle. Aujourd'hui, les écrans sont devenus addictifs et pour certains un peu trop. Alors, la nomophobie, selon le terme du dictionnaire, ça se dit de quelqu'un qui ne peut pas se passer de son téléphone portable et qui éprouve peur excessive à l'idée d'en être séparé ou de ne pas pouvoir s'en servir. Ça veut dire que ça intervient autant quand on a peur de ne pas avoir de réseau que quand on a peur de ne pas avoir son téléphone ou que la batterie nous lâche, etc. C'est à ce point-là. Alors, vous pouvez vous dire, oui, non, mais on n'en est pas là. Ce qu'il y a, c'est que comme toutes les phobies, elle ne vient pas du jour au lendemain. Il y a des signes avant-coureurs qu'on va voir ici. Mais également, si vous avez un doute et que vous trouvez que votre adolescent ou qu'une personne de votre entourage est trop accro à son téléphone, voilà, déjà d'identifier si c'est vraiment une nomophobie ou pas. Alors déjà, pour parler de la nomophobie de manière plus générale, c'est un concept qu'on a créé et ce nom vient de « no mobile phone » qui veut dire « pas de téléphone portable » et du mot « phobia » qui donne le mot « phobie » en français et qui veut dire une peur excessive. Et donc la contraction de ces termes-là a donné le terme de nomophobie. Donc elle concerne directement des gens qui ont peur d'être privés de téléphone portable. Alors, selon une étude réalisée par des chercheurs de Melbourne, de l'université de Monash, à Melbourne précisément, eh bien, elle a révélé qu'effectivement, les 18-25 ans étaient les plus touchés par cette pathologie de nomophobie. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est de leur génération. Moi, par exemple, je n'ai pas grandi avec le téléphone portable. La plupart des gens qui m'écoutent non plus. Mais les enfants sont exposés de plus en plus jeunes au téléphone. Et surtout, il y a une consommation de l'information qui est différente. Et on va voir ce que ça cache tout ça dans cette vidéo. Alors, il y a 2 catégories de personnes, 2 catégories obsessionnelles qui sont révélées dans cette étude. La première, c'est le besoin de s'exposer et d'exposer sa vie un peu parfaite aux yeux des autres. C'est une manière de chercher de la reconnaissance, de chercher la validation. Les gens vont surveiller les likes, les commentaires, les partages. C'est une manière de se sentir valorisé également. Certains utilisent même leurs enfants pour montrer à quel point ils sont de bons parents, à quel point leurs enfants sont beaux. Voilà, on va essayer de briller par mille et une façons. Soit c'est par quelque chose qu'on sait faire ou qu'on montre, soit c'est par sa vie de rêve, je voyage, voilà où je vais, voilà ce que j'achète, voilà où, dans quel restaurant, voilà la vue à laquelle j'ai assisté, voilà les spectacles que je peux voir, etc. Ces personnes-là ont soif de reconnaissance, elles vivent à travers le regard des autres et leur appréciation, et c'est une manière de, pour elles de se sentir aimées, mais d'une manière très virtuelle et qui n'est pas réelle. Et puis, il y a la deuxième catégorie de personnes, hein, vous l'avez deviné, j'imagine, eh bien, c'est la personne qui regarde et qui a ce besoin de se nourrir d'images et qui va suivre comme ça ces fameux influenceurs sur les réseaux sociaux pour deux choses principales, soit de fantasmer un petit peu la vie de rêve de ces gens, voilà, se mettre à la place, se dire oh, « moi, j'aimerais créer des entreprises, voyager à travers le monde, recevoir des colis, des grandes marques, m'habiller comme ça, avoir telle silhouette, tels yeux, tel physique, etc. » Et puis, il y a ceux qui vont avoir besoin de comparer leur vie à eux par rapport à ce que font les autres. Dans un sens comme dans l'autre, ça revient un petit peu au même. Ces personnes-là ont besoin, voilà, de valider, d'évaluer un petit peu leur vie, soit en la fantasmant, soit en la comparant aux autres. Et vous êtes bien d'accord que, quelle que soit la caractéristique dans laquelle on rentre, en fait, ces personnes-là ne se rendent pas compte que ces images tirées de la vie ne sont pas la vraie vie. Et qu'évidemment, ces gens sur Instagram ne mettent que des choses instagrammables, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on ne montre que le bon côté de ce qu'on vit, que les belles choses, et on oublie de montrer qu'en réalité, comme n'importe quel être humain, eh bien, il y arrive d'avoir des sales journées, de passer des mauvais moments, d'avoir de mauvaises relations, d'être en colère, d'avoir une sale tête, etc. Alors, voyons maintenant les signes de la nomophobie, les signes qui montrent de manière évidente que l'on est addict à son téléphone. Et je vous assure qu'aujourd'hui, on voit beaucoup, beaucoup de jeunes, hein, j'en vois autour de moi, vraiment, et je n'ose pas le dire aux parents, toujours, mais je trouve anormal qu'un enfant s'enferme pendant des heures avec un écran, que ce soit un téléphone ou des jeux vidéo, et se mette dans une réalité virtuelle qui n'est pas la vraie vie. En fait, quand on est jeune, on devrait sociabiliser, on devrait sortir. Sauf qu'aujourd'hui, les écrans ont rendu la sociabilisation erronée. C'est-à-dire que parce qu'on a je ne sais pas combien de centaines de milliers parfois d'amis sur les réseaux sociaux, on a l'impression d'être entouré parce qu'on reçoit des notifications, parce qu'on reçoit des messages d'encouragement, etc. On est dans une vraie vie, dans un échange. En fait, il n'y a aucun échange, tout est tellement virtuel. Ce n'est pas ça des bonnes relations. Des bonnes relations, c'est des relations dans lesquelles on voit nos amis, on sort ensemble, on fait des choses et même, j'ai envie de dire, où on oublie son portable parce que la relation est plus importante que ce qui se passe sur le téléphone. Or, ça a dû vous arriver. Je me souviens, c'était en Sicile. C'est vraiment le jour où ça m'a vraiment marqué. Mais il y avait même deux moments aussi. C'est dès qu'il y a des jeunes, en fait, hein, parce que c'est vrai que ça arrive moins souvent les personnes qui sont de ma génération. Mais je me souviendrai toujours de ce petit couple que j'ai vu dans une pizzeria en Sicile. Ils étaient tout mignons. Ils se sont assis face à face, évidemment. Ils ont commandé leur repas et ils ne se sont pas parlé durant tout le repas. À peine levé les yeux et ils étaient en train de manger et de regarder leur téléphone portable. Et ça, c'est pas normal. Et je me souviens d'un autre événement aussi où j'étais avec mon mari et pareil, j'avais en ligne de mire une table où il y avait quatre jeunes et ces quatre jeunes, de manière identique, se sont quasiment pas adressé la parole, sauf pour parfois montrer ce qui se passait sur leur écran. Et ça aussi, c'est pas normal. Ce ne sont pas des vraies relations. Ce qu'il y a, c'est que c'est un peu le modèle qu'ont nos enfants aujourd'hui de ce que sont les relations humaines. Et moi, je pense qu'en tant que parent, on a une responsabilité. C'est un, de leur dire que c'est pas la vraie vie. Deux, de limiter le plus tôt possible les écrans, de vraiment avoir conscience que quand on offre un téléphone à son enfant, on a un cadeau empoisonné et qu'il va falloir gérer ce cadeau empoisonné. Déjà, méfiez-vous si votre enfant montre beaucoup d'agressivité quand vous le privez de téléphone ou quand le téléphone est séquestré. Voilà. Si votre enfant montre des signes d'agressivité, voire de violence, c'est déjà le signe qu'il y a une addiction. Essayez de retirer ses cigarettes à un fumeur ou sa drogue à un drogué et vous allez voir, la réaction est violente. C'est le signe d'une addiction. Mais on va voir tous les autres signes de cette nomophobie. Donc, on a vu la première, avoir du mal à se détacher de son téléphone et être violent, voire agressif, en tout cas montrer beaucoup de signes de colère dès que quelqu'un essaye de nous priver de l'écran ou des informations qui s'y trouvent. Deuxièmement, être captivé par son écran, même quand on est en présence d'autres personnes. Hein, c'est ce que j'ai décrit dans le restaurant. Voilà, on est avec, dans un groupe ou à table avec ses parents. Quand on pose tout le temps son téléphone à côté, quand on le cherche dès qu'il n'est plus là, quand on regarde systématiquement son écran, quand même quand il est éteint, on appuie dessus pour voir s'il n'y a pas eu une notification, quand on saute sur son téléphone à chaque fois qu'il clingue. Voilà, tout ça, ça n'est pas normal. Je vois mes enfants parfois me dit « Maman, ça sonne !» Je dis « Mais laisse !» Tout va bien, je regarderai ça plus tard. On est à table, je ne vais pas sauter sur mon téléphone pour voir qui essaye de me joindre ou quelle notification j'ai reçue. Sauf que, voilà, certaines personnes n'arrivent pas à résister à ça. Donc, vous l'avez compris, ce n'est pas forcément une surconsommation, même si à la base, c'est ce qui s'est produit pour en arriver là, mais c'est surtout le rapport que l'on a à son téléphone portable. Également, si votre enfant s'isole, voilà, il n'est pas normal qu'un enfant reste dans sa chambre tout le week-end sur un écran. Ça n'est pas normal. Il devrait chercher à voir d'autres enfants, à sortir, à s'aérer. Ce n'est pas sain. Donc, quand un enfant s'isole et passe tout son temps avec son téléphone, ce n'est pas normal. C'est une surconsommation. Ça veut dire qu'il y a un besoin derrière de passer du temps dessus. Ça veut dire qu'il y trouve son compte et que donc, c'est comme si, voilà, c'est comme le drogué qui s'injecte encore plus de drogue. Parce que oui, c'est une drogue quand on arrive à passer autant de temps avec son téléphone et à se couper finalement relationnellement, que ce soit de sa famille, de ses amis, de l'extérieur. On voit aussi des personnes qui par exemple marchent dans la rue et sont encore sur leur téléphone portable ou rencontrent d'autres personnes, parlent, essayent de suivre cette conversation et en même temps le téléphone. Quand vous avez un enfant dont vous n'arrivez pas à capter l'attention parce qu'il est sans arrêt en train de regarder avec l'œil rivé sur son écran, ça aussi c'est un signe de nomophobie. Et enfin, quand la personne évite les situations dans lesquelles elle sera privée de son téléphone, soit des endroits où il n'y a pas de réseau, parce que ça arrive, soit des endroits où le téléphone est proscrit, comme par exemple au cinéma. D'ailleurs, il y a des gens qui, au cinéma, coupent la sonnerie, mais continuent, je l'ai déjà vu, on le voit, parce qu'en fait, les écrans sont éclairés, rétro-éclairés, et du coup, on voit, et ça m'est déjà arrivé de voir qu'au cinéma, on pourrait imaginer qu'on est là pour regarder un film et que certaines personnes gardent leur téléphone allumé et continuent pendant le film à regarder ce qui se passe sur leur téléphone. Voilà un petit peu tous les signes d'une nomophobie. Je ne le dirai jamais assez, mais en conclusion de cette vidéo, il est vraiment de notre responsabilité de parents, de se fâcher parfois avec nos enfants, d'avoir des conflits avec eux parce qu'on va vouloir réguler leur temps d'écran, mais c'est important, j'ai fait plein de vidéos sur comment faire décrocher des écrans, les dangers des écrans, voilà, vous allez les retrouver sur la chaîne. Il est fondamental d'avoir un peu d'agressivité parce qu'un enfant n'est pas content, parce qu'on l'oblige à venir se promener, parce qu'on l'oblige à laisser son téléphone. Moi, j'ai remarqué que quand on faisait des activités en famille, mes filles ne pensaient même pas à leur téléphone. Et ça, c'est une vraie satisfaction de voir qu'on arrive à faire des propositions parce qu'on a lutté et qu'on arrive à capter l'attention de nos enfants en dehors de ces réseaux. Mais c'est vrai que si je les laisse faire, elles font comme tout le monde. D'ailleurs, chez moi, il est interdit de marcher avec son téléphone portable à la main. Mais si je les laisse faire, c'est ce qu'elles vont faire, évidemment. Donc, ça n'est pas la faute des enfants. Cet outil-là, cet objet-là est captivant. Tout est fait pour, pas tellement l'objet, hein, mais surtout les réseaux auxquels on a accès, pour capter l'attention. Hein. Regardez TikTok qui propose une vidéo et puis vous la finissez. Il y en a une autre et une autre et une autre et une autre et vous rentrez dans une espèce de spirale où le temps défile sans que vous vous en rendiez compte. Donc c'est à nous, parents, de mettre des limites et des limites claires. Et si vous ne savez pas comment, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai faites sur le sujet.
Vous avez aimé cet épisode ? Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications. Laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez et un commentaire afin de m'aider à diffuser mes graines de conscience et de bienveillance à d'autres personnes. Vous pouvez aussi, si vous en avez envie, partager ce podcast à vos amis. Merci d'avance pour votre soutien. Pour aller plus loin, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, mon site internet et mes réseaux sociaux. Ils portent mon nom, Noémie de Saint-Cernin. Et si vous souhaitez aller plus loin et vous faire accompagner, venez rejoindre mes programmes de coaching et mes accompagnements. Tout est indiqué sur mon site internet www.noemiedesaintcernin.com dans la rubrique « Mes coachings et formations ». Vous pourrez également télécharger gratuitement les coffrets cadeaux que j'ai spécialement concoctés pour vous. À très bientôt !